Vous écoutez le podcast de Citadelle, le lieu d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences à Nantes. Série numéro 3, écouter, agir, ensemble contre les cyberviolences sexistes et sexuelles.
En fait, on en parle beaucoup comme ça, un peu dans les médias et tout, mais j'ai l'impression en tout cas que... Oui, mais c'est moins grave, c'est-à-dire que... Il ne m'a pas frappée, j'ai pas une humiliation publique, voilà, c'est des SMS, voilà, il est insistant. Et effectivement, au départ, la cyberviolence peut commencer par « t'es où, tu fais quoi ?» pas mal de messages. Et en fait, c'est « il est amoureux ».
Je crois que je n'ai même pas vraiment pris conscience que j'étais harcelée. Enfin, j'avais juste plutôt l'impression qu'il était lourd et qu'il était insistant. Et je l'ai subi, mais sur le coup, je me suis pas rendu compte que ça pouvait vraiment être de la violence. Enfin, ouais.
Neuf femmes victimes de violences au sein du couple sur 10 ont aussi subi des cyberviolences. 9 sur 10. Et 93% rapportent en avoir subi des conséquences assez similaires à celles des violences conjugales. Isolement, perte de confiance, d'appétit, hypervigilance, perte de sommeil, etc. La liste est longue. Ces chiffres, c'est une étude menée en 2018 par le Centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources en matière d'égalité femmes-hommes, qui nous les apprend. Imane Karzabi, l'une de ses responsables, vous en dira plus tout à l'heure, notamment sur la manière dont ces cyberviolences se déploient dans la sphère conjugale. On doit dire qu'avec Maud, ces résultats nous ont interpellés. En échangeant avec l'équipe de Citadelle sur cette nouvelle série de podcasts, on a vite compris que le besoin d'informations et de ressources autour des cyberviolences en général et dans le cadre conjugal en particulier était absolument nécessaire. Après tout, les smartphones, réseaux sociaux ou plateformes web ont débarqué dans nos vies depuis seulement une vingtaine d'années, pour le meilleur et pour le pire. Cyberharcèlement, cybersurveillance, cybercontrôle, cyberviolence via les enfants, cyberviolence économique. Que recouvrent tous ces termes? Comment peut-on définir les cyberviolences au sein des couples? Est-ce que les centres d'accueil des victimes et les associations qui les accompagnent ont les moyens de lutter contre ces violences? Doit-on les considérer comme de nouvelles formes de violence, ou est-ce que le numérique agit comme un espace supplémentaire pour renforcer celles qui existent déjà dans une forme de continuum? Pour essayer d'y voir plus clair et surtout pour vous aider, vous, témoins, professionnels en charge de ces questions dans vos organisations, ou citoyens et citoyennes engagés, nous sommes allés à la rencontre de Caroline Godard, responsable d'établissement chez Citadelle, d'Imane Karzabi, responsable de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclert, de Vincent Berthebault, intervenant socio-judiciaire à l'ADAES 44, et de Pauline et Léna, que nous remercions très chaleureusement et qui ont accepté de partager leurs réflexions sur des violences qu'elles ont elles-mêmes subies. Leurs prénoms ont été modifiés, ainsi que parfois leur voix. Vous écoutez le premier épisode de la troisième série de podcasts réalisés pour Citadelle, Écoutez Agir, ensemble contre les cyberviolences sexistes et sexuelles. Je suis Clémence Leveau et j'ai co-créé cet épisode avec Maud Raffray, que vous entendrez dans le second épisode, et Erel Latimier, qui en a assuré la création sonore et la réalisation.
Il n'y a plus de frontières, et pareil, les cyberviolences effacent toute frontière entre l'intime et le public, entre...
Caroline Godard, responsable d'établissement chez Citadelle.
Quand vous pouvez être protégé ou non, même si vous habitez, vous habitez pas avec la personne, en fait, elle est intrusive chez vous à cause des cyberviolences. Et du coup, je pense qu'il y a une spirale sans fin.
Les cyberviolences vont renforcer les mécanismes déjà bien connus des violences conjugales.
Imane Karzabi, responsable de l'Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclert.
Effectivement, le fait que l'agresseur va isoler la victime, il va la culpabiliser, et donc forcément les conséquences psychotraumatiques vont être particulièrement graves pour les victimes. La victime va avoir l'impression de ne plus avoir d'espace de répit, d'espace personnel à elle. Elle va avoir le sentiment d'omniprésence de l'agresseur, voire de la toute-puissance de l'agresseur.
Ce que je vais appeler cyberviolence, ça compte aussi tout ce qui est SMS et appels, donc en fait tout ce qui inclut le fait que je ne sois pas là physiquement et qu'il ait quand même accès à moi. En tout cas, ma communication. Et donc, au tout début, pendant une bonne partie de la relation, c'était surtout des SMS, des appels au milieu de la nuit ou de la journée. En fait, n'importe quand, c'était, mon avis n'était pas prioritaire. Et si, j'étais fautif dans tous les cas parce que, parfois, je répondais alors qu'il fallait pas répondre et qu'il voulait me laisser un message. Parfois, je répondais pas et du coup, il était énervé. Et ça pouvait se transformer en violence, entre guillemets, physique, dans le sens où, si je répondais pas en ligne, bah, il m'attendait devant chez moi, ce genre de choses. Et du coup, c'est une sorte d'omniprésence. Et c'est très violent à vivre parce que, en fait, on n'a plus de pause.
Pendant la relation, c'était très intense et c'était quelqu'un de très jaloux qui avait beaucoup d'exigences sur comment devait se dérouler notre relation et qui parfois pouvait m'appeler 150 fois en une soirée parce que je ne répondais pas au téléphone ou qui pouvait me demander exactement avec qui j'étais. Quelqu'un qui avait essayé d'avoir quand même beaucoup de contrôle sur notre relation.
Puisque les cyberviolences, c'est vraiment toutes les violences qui sont construites autour de l'outil numérique. L'outil numérique étant aujourd'hui de plus en plus utilisé, il l'est aussi à travers les violences, donc de manière néfaste.
Le chiffre clé de notre étude, c'est que 9 femmes victimes de violences conjugales sur 10 vont déclarer des cyberviolences conjugales. Donc en effet, le constat est que dans quasi chaque situation de violence conjugale, il y aura des cyberviolences conjugales.
Les cyberviolences étant extrêmement diverses, dans la plupart des violences conjugales, effectivement, elles sont utilisées soit pour du chantage, notamment dans le cadre de diffusion de photos ou d'images à caractère sexuel, de vidéos à caractère sexuel. Elles sont aussi utilisées, comme je le disais tout à l'heure, pour pister, traquer, donc beaucoup de trackers dans les portables ou parfois dans les habits, dans la voiture, parfois autour de domicile, avec des caméras. Et donc, dans le cas des violences conjugales, comme on est dans un système plus intime, l'auteur, en fait, peut avoir les liens nécessaires pour mettre ses trackers dans les objets de la victime ou alors pour avoir le levier sur le chantage. Donc, oui.
Quand on parle des cyberviolences conjugales, de quoi on parle concrètement ? Donc, on a identifié 6 formes. Donc, tout d'abord, le cybercontrôle, qui est la forme la plus fréquente déclarée par les victimes. Il s'agit, pour l'agresseur, de connaître ou de vérifier régulièrement tous les déplacements, les communications de la victime. Par exemple, 8 femmes sur 10 déclarent que leur partenaire ou ex a exigé qu'elle soit joignable en permanence. 7 femmes sur 10 déclarent que le partenaire violent leur a interdit de communiquer avec une autre personne. Et également, la moitié des femmes déclarent que le conjoint violent régulièrement confisque leur téléphone. Donc voilà, ça c'est la catégorie le cybercontrôle. On a également la catégorie, la forme de cyberharcèlement. Donc effectivement, 80% des femmes déclarent avoir reçu de manière répétée des insultes ou des injures via le téléphone ou via les réseaux sociaux. Il y a également la cybersurveillance. Donc il s'agit du contrôle continu des déplacements, des agissements, des relations sociales de la victime. Et cette cyberviolence, cybersurveillance conjugale, elle peut être à l'insu ou imposée. Donc à l'insu, donc concrètement, il peut s'agir d'un logiciel espion installé à l'insu des victimes qui permet effectivement de tracer non seulement tous ces déplacements, mais avoir également accès au journal d'appel, à tous les messages envoyés sur les réseaux sociaux, donc avoir quand même un regard assez complet sur toute la vie de la victime. Et effectivement, ce qu'on a pu voir, que dans l'enquête, 21% des femmes déclarent avoir été surveillées à distance sans leur accord par leur partenaire ou leur ex. Et on peut également supposer que ce chiffre est sous-estimé, puisque le logiciel espion, par essence, c'est quelque chose qui est installé à l'insu. Et donc là, il s'agit de 21% de femmes qui ont pu le constater. Parce que du coup, l'agresseur peut aussi, d'ailleurs, sur les cyberviolences administratives, peut avoir accès, par exemple, au compte CAF, au compte bancaire de la victime, se faire faire verser les allocations, les indemnités. Donc effectivement, ça fait partie aussi de ces possibilités-là de l'agresseur. Et dans les autres formes de cyberviolence conjugale, donc il y a par exemple les cyberviolences sexuelles, où l'agresseur va imposer, par exemple, à la victime de filmer tel ou tel acte sexuel et menacer par la suite de diffuser cet acte, ou va imposer à visionner des contenus pornographiques contre voilà, la volonté de la victime. Donc effectivement, on est aussi dans ces formes-là. La dernière forme, c'est justement les cyberviolences conjugales via les enfants. Donc en fait aujourd'hui, l'un des constats qui nous permet d'ailleurs de mieux comprendre les violences conjugales, c'est que les violences conjugales ne s'arrêtent pas avec la séparation, elles vont se poursuivre et donc l'agresseur va chercher par tout moyen à atteindre les victimes. Et donc effectivement aujourd'hui, l'une des complexités des violences conjugales, c'est que généralement les agresseurs peuvent continuer à avoir le lien avec les enfants. Et donc, dans le cadre de ce lien avec les enfants, vont chercher à utiliser les enfants et leurs moyens de communication pour atteindre la victime. Et donc, en effet, beaucoup de victimes dans le cadre de l'étude ont également déclaré ces cyberviolences conjugales via les enfants.
Ce sur quoi insiste le rapport réalisé par le Centre Hubertine Auclert et les fiches pratiques qui en découlent, que nous vous conseillons très chaudement d'aller consulter, c'est la manière dont le numérique renforce, appuie considérablement la stratégie de l'agresseur. Alors, pour essayer d'ajouter de l'eau à notre moulin de la compréhension du sujet, nous sommes allés rencontrer Vincent Berthebault, intervenant socio-judiciaire chez l'ADAES 44, une association de Loire-Atlantique qui organise depuis plusieurs années des stages de responsabilisation pour les auteurs et qui a décidé de créer des groupes de parole sur ses fonds propres, tirant le constat que ces stages de responsabilisation de 2 jours sont souvent bien trop courts pour permettre une véritable prise de conscience.
On la mettait, la cyberviolence, elle faisait partie de notre discours, mais ce n'est pas une violence sur laquelle on avait des exemples où on pouvait les amener à réfléchir sur leur propre comportement et leurs propres pratiques. Aujourd'hui, on insiste beaucoup plus parce qu'on s'est rendu compte que certaines personnes, la porte d'entrée entre guillemets, du stage, c'est des violences physiques, verbales, psychologiques ou autres. Et en fait, quand on commence à creuser, parce que le lien il est très rapide, on se rend compte que dans leur comportement, notamment auprès des cyber, il y a de la violence en fait. Et alors je ne sais pas si c'est parce que nous on est plus à l'aise pour l'aborder, mais en tout cas eux se livrent beaucoup plus récemment sur cette question-là.
Et qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils racontent?
Ils minimisent beaucoup. Il y a la question d'un logiciel là, qui est une application où on contrôle quasiment tout le téléphone de l'autre personne. Alors ça, on sent que quand certains osent dire qu'ils l'utilisent, généralement ils disent c'est avec consentement, ils viennent tout de suite minimiser l'impact. Mais nous, ça nous permet du coup d'y aller et puis de creuser sur pour quelles raisons ils utilisent cette application. Et voilà. Et on sent bien qu'en fait, c'est présent dans plein de situations. En fait. Je trouve que l'utilisation du portable de manière compulsive pour... À tout prix garder le lien avec la personne et maintenir ce lien coûte que coûte. Et on voit bien en fait des personnes qui sont face à nous qui paraissent complètement lucides et capables de se raisonner, quoi, parviennent à dire mais je sais pas à quel point comment ça se fait que j'en suis arrivé là, quoi. Et quand on déconstruit, on voit bien qu'il y avait d'autres violences souvent avant, peu visibles ou en tout cas pas intégrées de la part de la personne, et que là c'est juste le moment de la séparation souvent où sur ce sujet-là, où là, ça vient mettre une lumière sur... l'objet, c'est le téléphone, mais en fait, la violence, elle est bien à d'autres endroits.
Donc, on a pris du temps pour se dire que finalement, c'était bien fini.
Pauline.
Et suite à ça, là, il a commencé à m'envoyer des textos, à m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, à m'envoyer des mails en me demandant de lui rendre les affaires qu'il m'avait offertes dans un premier temps. Et puis, petit à petit, c'était plus des menaces... comme quoi il allait venir les récupérer en m'insultant, en me disant qu'il allait me traîner dans la boue vis-à-vis de mes amis et de ma famille. Et voilà. Et ça a duré, je ne sais plus vraiment, je dirais quelques semaines, enfin, je pense plusieurs mois.
Non, c'est plutôt des conseils accessibles.
Léna.
Qu'on m'a donné, qui m'ont permis de m'en sortir. Et ça a pris quand même au moins 6 mois. Et du coup, les paroles des autres finissaient par traverser le brouillard qu'il avait induit dans ma tête. Et je commençais à me dire, c'est vrai que ça, c'est un peu limite. C'est vrai que quand il est plus constamment là contre moi, plutôt, je peux réfléchir et je peux me rendre compte que c'est grave ce qu'il fait, ce qu'il me dit, et que je me sens vachement mieux quand il ne me parle pas, en fait. La personne qui m'a vraiment aidé à en finir avec cette relation, c'est vraiment mon ami, en fait, qui m'a aussi dit de venir à Citadelle, parce que, en fait, c'est la seule personne qui n'est pas partie quand j'étais avec cet homme. C'était très très dur pour lui, parce que déjà il constatait que je l'écoutais jamais, donc c'est déjà horrible de devoir discuter avec quelqu'un qui t'entend pas, en fait. Et évidemment qu'on s'est éloigné un petit peu, mais dès que j'avais besoin de lui, je pouvais l'appeler encore une fois. Il m'a pas lâché, en fait.
Quand j'ai voulu porter plainte, c'est que on m'a pas écouté, pas pris en considération. Moi, je me suis dit oui, en fait, je pense que j'ai compris juste qu'on était quand même bien seul, en fait, dans des situations de violence ou dans des situations un peu dramatiques. Je me suis sentie vraiment seule et je me suis dit oui, en fait, il faut éviter de se mettre dans ces situations-là, parce que c'est difficile après de s'en dépêtrer et qu'il n'y a pas de soutien, en fait, qui existe. Donc ça, c'est quelque chose quand même que j'ai l'impression d'avoir gardé.
La situation dont parle Pauline date de plus de 10 ans. Est-ce que depuis, tout a radicalement changé pour permettre et faciliter les dépôts de plaintes dans les commissariats et les gendarmeries ? Malheureusement, la réalité est beaucoup plus complexe. S'il faut noter des efforts de formation engagés auprès des professionnels, notamment après le Grenelle des violences conjugales, les récits de victimes racontant la violence supplémentaire de ne pas avoir été accueillis correctement, ni confortablement, ni avec le temps qu'il fallait, sont encore trop nombreux. D'ailleurs, Léna, que vous allez entendre, a tenté de déposer plainte une première fois il y a 1 an et on lui a ri au nez. Oui, vous avez bien entendu. Depuis, elle a pu recommencer, sans se déplacer dans un commissariat, mais en se rendant dans un lieu sûr pour elle, en l'occurrence Citadelle, et devant des équipes spécialisées.
Quand je suis arrivée et que du coup j'ai raconté ce qui m'était arrivé à quelqu'un, ça m'a un peu frappée qu'on me dise... En fait, c'est vraiment grave. En fait, il faut vraiment en parler à la police. C'était pas une injonction, mais plus un conseil et aussi un encouragement de « tu vas pas être toute seule si tu le fais, on va t'accompagner pour le faire. Et même si tu veux pas, on peut te donner des rendez-vous médicaux ou thérapeutiques pour que tu puisses... un petit peu prendre des morceaux de ce qui t'est arrivé et les comprendre morceau par morceau plutôt que d'avoir une grosse fumée noire dans la tête qui est hyper diffuse et tu sais juste pas ce que c'est. Et donc, ça, je me souviens que du coup, j'ai quand même été très bien comprise. Parce que, en fait, ce qui est assez, entre guillemets, vicieux avec mon histoire et sûrement celle de beaucoup d'autres, c'est qu'en fait, selon la personne avec qui on va parler, on peut très bien recevoir mais c'est un peu normal, quoi. Ou alors, oui, il est jaloux, ce genre de choses, et c'est hyper minimisant. Et c'est pour ça que je me disais, c'est peut-être pas grave. Donc, ça me fait du bien que quelqu'un dise non. Non, c'est grave et... On va s'en occuper, on va faire un truc.
On a travaillé sur l'action, en fait. Donc on travaille avec les associations spécialisées qui accompagnent les femmes victimes de violences.
Imane Karzabi.
Et donc notre objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les renforcer justement sur la lutte contre les cyberviolences conjugales. Donc dans cet objectif-là, on a produit plusieurs outils. Donc tout d'abord, justement, cette fiche qui aide à repérer, puisque les femmes ne vont pas en parler spontanément, donc d'où l'objectif de pouvoir quelque part aborder avec elles tous les aspects des cyberviolences conjugales, les différentes formes à travers des situations très simples, pour aider à verbaliser ces situations et avoir une vision globale de toutes les violences conjugales, y compris cyber, sur le volet cyber, subies par la victime. Une fois que les professionnels ont cette vision globale, donc, elles travaillent sur la stratégie de protection. Pour nous, le début de la stratégie de protection, ça part d'un diagnostic justement sur quelle est l'aisance de l'agresseur avec le numérique, quel est aussi le sentiment de la victime, parce que c'est la victime qui connaît au mieux sa situation, qui connaît au mieux l'agresseur. Et donc, l'objectif, c'est de voir avec elle quels sont potentiellement les leviers qui peuvent être utilisés par l'agresseur et de voir comment est-ce qu'on peut sécuriser sa situation. Voir aussi quelle est l'urgence, quel est le danger. Et donc, voilà, par exemple, on peut solliciter les dispositifs de protection qui existent déjà, l'ordonnance de protection, dans le cadre des cyberviolences également. Donc, on a déjà cet arsenal qui existe aujourd'hui de protection sur les violences conjugales et qu'on peut mobiliser également pour les victimes des cyberviolences conjugales. Pour d'autres, il n'y aura encore que la cohabitation. On peut aussi travailler sur une stratégie. Par exemple, la victime peut revenir plusieurs fois voir l'association, et pendant ce temps-là, elle laisse son téléphone chez une amie ou chez une victime. D'autres vont préférer venir à l'entretien avec le téléphone pour pouvoir rester joignable. Donc voilà, tout va dépendre de la situation des victimes, d'où l'importance de travailler avec elles, de voir qu'est-ce qui leur convient le mieux. Par la suite, on propose également donc, une fiche juridique. On a travaillé avec les associations, avec les avocates pour pouvoir voir quels sont les textes de loi qui peuvent protéger les victimes. Donc on a créé quelque chose d'assez exhaustif, et d'ailleurs c'est une bonne nouvelle, notre constat est qu'aujourd'hui la loi, elle est protectrice, elle prend en compte plusieurs formes de cyberviolence conjugale. Et donc quand les victimes vont aller porter plainte, elles peuvent même venir avec cette petite fiche pour expliquer, voilà, mon vécu est tel et ça correspond à tel délit. Et puis effectivement, parfois, ça aide aussi les professionnels de la justice ou de la police de mieux caractériser aussi ces situations-là. Collecter les preuves. Donc on fait une fiche spéciale sur la collecte des preuves, comment effectivement faire des captures d'écran pour que ça soit daté, pour que ça soit effectivement selon le format qui va être pris en compte par la justice par la suite. Et puis, il y a la question, effectivement, de la sécurisation des outils numériques. Donc, il y a plusieurs associations qui mettent en place des ateliers à destination des femmes accompagnées. Donc, ça nécessite aussi une démarche au préalable au niveau de la structure pour se renforcer sur le numérique. Mais c'est vrai que là, c'est une question assez complexe parce que les professionnels qui accompagnent les femmes victimes de violences ne vont pas devenir les expertes du numérique, d'où l'importance aussi de travailler avec d'autres structures, en partenariat, les autres structures qui vont être spécialisées sur le numérique, pour créer cette synergie d'action entre les professionnels expertes des mécanismes des violences conjugales et d'autres structures qui vont être expertes sur le numérique. Et sur ce sujet-là, donc aujourd'hui, voilà, on a quelques conseils, orientations à proposer, mais de manière générale, effectivement, on constate qu'il y a un manque de ressources de la part des associations, et donc ça fait partie de notre plaidoyer, et également de mettre en place un service d'aide aussi pour les victimes qui ont besoin d'avoir des conseils techniques très concrets dans l'urgence sur comment, par exemple, supprimer un contenu, une vidéo intime diffusée sur les réseaux sociaux. Il s'agit des situations très urgentes. Donc aujourd'hui, on a dans nos outils, dans nos ressources, on propose quelques orientations, mais véritablement, il manque aujourd'hui un service public, un numéro par exemple, qui pourrait répondre aux victimes de manière rapide. Donc il y a par exemple l'association e-enfance qui propose ces dispositifs-là, qui a été pensé au début pour des jeunes, pour des personnes mineures, mais aujourd'hui qui est contacté aussi par les personnes majeures parce qu'il n'y a pas d'autres services. Mais ce qu'on conseille aux victimes, c'est de pouvoir contacter ces plusieurs dispositifs en même temps, ce qui parfois pour elles, ça peut leur donner l'impression d'être d'épuisement, d'être éparpillée dans ces démarches. Donc d'où l'importance d'avoir quand même un service unique qui va aussi l'aider, en fait, qui va faire ces démarches avec les victimes, parce que chaque plateforme a ses spécificités, entre par exemple, effectivement, contacter e-enfance, faire les signalements sur les plateformes, remplir les formulaires des plateformes, remplir les formulaires des pharos. Donc, des dispositifs qui sont importants à mobiliser, importants à faire connaître aux victimes, parce que c'est des dispositifs qui existent déjà et qui peuvent leur apporter de l'aide. Mais c'est important également de réfléchir à la facilitation des parcours des victimes, voire une sorte de guichet unique pour les victimes, pour apporter aussi, pour avoir aussi la réponse sur le volet numérique.
Je pense que je suis beaucoup plus aussi, comment dire, contre l'usage de photos.
Pauline.
De photos dénudées et même de vidéos, en fait. Je pense qu'avant, c'est des questions que je ne me posais pas. Et qu'au moment donné, à ce moment-là, je me suis dit, ah, est-ce qu'il a gardé des photos qu'on aurait pu s'envoyer ou des vidéos ou... Et j'avais peur que ça soit diffusé aussi. Parce que c'est un peu ce dont il me menaçait. Ensuite, j'ai l'impression aussi d'avoir peut-être un radar à con un peu plus développé. Enfin, de plus scanner en fait les hommes que je rencontre et de m'extirper des relations, même amicales, où je sens qu'il peut y avoir un peu trop de contrôle ou même potentiellement de la violence.
À ce stade de l'épisode, il nous semble important de redire que les victimes ne sont jamais responsables des violences qu'elles subissent. Mais ce n'est bien sûr pas toujours ce que la société leur renvoie. J'en veux pour preuve ce chiffre d'une étude réalisée par le collectif féministe contre le cyberharcèlement par Ipsos en 2022, qui rapporte que plus d'un tiers, 36% précisément, des victimes de violences en ligne rapportent que les personnes à qui elles se sont confiées ont considéré qu'elles étaient en partie responsables de la situation. Ce chiffre atteint même 69% pour les victimes de diffusion non consentie de médias intimes. Il faut donc le répéter et le répéter encore, les victimes de violences ne sont pas responsables des violences qu'elles subissent.
J'ai pas envie de passer 40 ans à me dire peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va s'énerver. J'ai envie d'une vie qui est calme, où je puisse m'exprimer. Et c'est très dur de pouvoir s'exprimer après ce genre de relation. Ça nous apprend vraiment, ça nous Pavlov à se taire et à nous taire. Donc voilà, j'aimerais juste pouvoir m'exprimer, pouvoir faire de l'art, pouvoir chanter, dessiner, écrire et aussi peut-être... aider à ouvrir les yeux d'autres personnes qui sont dans ce genre de relation et qui pensent que c'est normal et qui peut-être savent pas qu'il y a un meilleur avenir, des meilleures possibilités, une manière de se parler à soi, et à se comprendre son corps, comprendre ses émotions. Donc voilà, communiquer en fait.
On parle de cyberviolence mais on conscientise pas.
Caroline Godard.
Les répercussions sur la victime. Et du coup, je pense qu'il faut plus de sensibilisation, notamment chez les enfants, sur les outils numériques, l'utilisation des outils numériques. Si on vous envoie plusieurs SMS d'affilée ou si sur les réseaux sociaux, on vous envoie plusieurs messages aussi d'affilée et parfois qui sont insultants ou même qui ne le seraient pas, mais qui sont un peu insidieux, ce n'est pas normal en fait. Voilà. Et je pense qu'il y a... une méconnaissance du coup du fait que ça peut avoir des répercussions extrêmement graves et très rapidement.
C'était le premier épisode de la troisième série de podcasts réalisée pour Citadel, écouter Agir ensemble contre les cyberviolences sexistes et sexuelles. Cet épisode a été écrit, réalisé et monté par Maud Raffray et Clémence Leveau. La réalisation et la création sonore ont été assurées par Erel Latimier. Pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les capsules de Citadel, un format audio de moins de 10 minutes pour comprendre une notion ou découvrir un outil. Tous les podcasts de Citadel sont disponibles sur le site internet de Citadel, rubrique ressources, et sur vos plateformes d'écoute préférées.